Un jour, un livre, un auteur, Philippe Dauny, Diego Arrabal, qu'on retrouve ici avec grand plaisir chaque semaine. Et on va aller voir quelqu'un qu'on a l'habitude d'aller voir et qui est dans une vallée qu'on aime beaucoup. Hein. On va dans la vallée d'Or, hein, c'est ça?
Tout à fait, oui. Bonjour Philippe Subercase, bonjour Diego Arrabal.
Bonjour les Philippe.
Oui, comme à notre habitude, nous partons à la rencontre d'une libraire tout aussi passionnée que passionnante pour évoquer avec elle ses coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier 2025. Je rappelle pour les néophytes que la France se distingue des autres pays européens par deux rentrées littéraires, celle de septembre, la classique, dira-t-on, et celle de janvier, plus méconnue, moins médiatique, mais tout aussi intéressante. Bonjour Lucie Plessala.
Bonjour.
Bonjour Lucie.
Bonjour.
Vous êtes la responsable de la librairie Bleu et Or à Saint-Lary-Soulan depuis bientôt 14 ans. Alors, on est d'accord, il n'y a pas de crise d'adolescence en vue, hein. Juste une sélection de coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier 2025. La parole est à vous, Lucie Plessala, pour tout d'abord nous rappeler où se situe votre librairie dans la commune de Saint-Lary-Soulan, vos horaires d'ouverture et tout élément d'information que vous jugeriez utile d'apporter à toutes celles et ceux qui suivent notre émission littéraire. Allez-y.
Oui, alors une petite librairie... Qui propose à la fois des livres pour tous les âges, tous les goûts, et aussi quelques jeux de société. On est situé à l'entrée de Saint-Lary, dans la vallée d'Or, dans les Hautes-Pyrénées. Et on est ouvert tous les jours, toute l'année, tous les jours, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h30.
Bon, c'est bien pour une station comme la station de Saint-Lary, hein, à la fois pour l'été et pour l'hiver, pour tous ceux et toutes celles, effectivement, qui nous entendent dans les Hautes-Pyrénées, mais aussi sur l'ancienne région Midi-Pyrénées. Ben, vous savez qu'à Saint-Lary-Soulan, quand vous irez, vous aurez une librairie ouverte tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés. Allez, on va enchaîner, Lucie Plessala, avec vos coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier 2025. On vous écoute.
Alors tout d'abord, j'aimerais parler d'un joli recueil, à la fois poésie, petite chronique écrite par Jérôme Leroy, s'appelle « Un effondrement parfait ». C'est un petit recueil qui va reprendre des pensées un petit peu... On retrace dans ses souvenirs, on fait un peu le point sur ce qu'il pense de différents sujets. Il y a un côté nostalgie, un petit côté partage de découvertes littéraires, de découvertes aussi musicales et tout cela. On retrouve un petit peu tout ce qu'on retrouve à chaque fois dans les recueils de Jérôme Leroy. Et donc, c'est aux éditions La Table Ronde. Très, très beau recueil.
D'accord, très, très beau recueil. C'est bien parce que on dit souvent dans cette émission littéraire, dans Un jour, un livre, un auteur, qu'on ne parle jamais suffisamment de poésie. Donc, c'est d'autant plus intéressant, Lucie Plessala, hein, donc responsable de la librairie Bleu et Or à Saint-Lary-Soulan, que l'on vienne effectivement donc, mettre en exergue un recueil de poésie. Donc, redites-nous le titre. Donc, c'est de Jérôme Leroy, un recueil de poésie à La Table Ronde.
Oui, Jérôme Leroy, Un effondrement parfait, aux éditions La Table Ronde.
Un effondrement parfait. C'est un titre, un peu...
Catastrophique.
Un peu catastrophique. Comment il faudrait l'entendre par rapport au contenu des poésies qu'il y a à l'intérieur, Lucie Plessala?
Alors, c'est vrai que le titre est assez particulier. Bon, c'est le titre du dernier... de la dernière poésie. Mais Un effondrement parfait, oui, c'est... C'est un peu une perte des repères. C'est vrai qu'il fait part sur certains de ses récits d'une perte de repères de la part des Français, de la part de la France en règle générale, on va dire, et comment un petit peu ce qui se passait dans les années 60, ce qui se passe un petit peu maintenant, et un petit peu...
C'est une perte de repère qui est un peu nostalgique ou quoi? C'est ça que vous voulez arriver?
Très nostalgique par contre, oui, il y a beaucoup de nostalgie dans ce livre. C'est vraiment nostalgie, souvenir et puis bon, une analyse un peu de ce qui se passe depuis les années 60.
D'accord, Un effondrement parfait, donc recueil de poésie de Jérôme Leroy, donc à la, aux éditions donc, de la Table Ronde. Ça, c'était le premier. Donc, qu'est-ce que vous avez ensuite à nous proposer dans le cadre de votre sélection de coups de cœur de cette rentrée littéraire de janvier 2025, Lucie Plessala?
Alors, j'enchaîne sur un livre, pareil, qui n'est pas très, très amusant. Le livre s'appelle « Après ». Il est écrit par Raphaël Meltz aux éditions Le Tripode. On est en fait là du coup sur un roman autour du deuil. Mais c'est vrai que c'est une présentation du deuil un peu particulière. Tout au long de... C'est plus, très peu de chapitres. Il y a 7 chapitres au final, bon, plus ou moins importants. Mais 7 chapitres qui parlent au fur et à mesure suite à la disparition d'un homme. De la comment la famille va se remettre, comment sa femme et ses enfants vont s'en remettre, mais comment lui aussi de son côté assiste à cela et comment de son côté aussi il va petit à petit se disparaître dans un sens. Et chaque chapitre en fait parle d'un sens qu'il perd et c'est vraiment pas un roman joyeux, mais alors une très très belle écriture et un moyen aussi, je pense, quand même de pouvoir affronter la disparition d'une certaine manière.
C'est un livre que vous recommanderiez à qui, celui-là? Parce que je me pose souvent la question des livres qui parlent du deuil. Hein. Le deuil étant un peu la construction de l'absence de l'autre, hein, de celui ou de celle qu'on a aimé. Ou même, hein, on oublie souvent que le deuil, ça peut aussi être l'être que l'on a été, que l'on n'en sera plus jamais après un accident, où on a perdu par exemple l'usage de ses jambes, l'usage d'un membre qui fait que voilà, on ne sera plus jamais comme on était auparavant. Vous le conseilleriez à qui cet ouvrage, Lucie Plessala, donc le « Après » de Raphaël Neds aux éditions du Tripode, qui parle du deuil?
Alors c'est vrai que là vraiment c'est un livre qui peut parler un petit peu à tout le monde. Ça peut, après, ce que je dis toujours, il faut voir aussi dans quel état d'esprit on se trouve, parce que des fois, ça peut nous aider, des fois, ça peut au contraire nous faire enfoncer. Un peu plus, nous enfoncer, nous faire plus de mal qu'autre chose. Mais c'est vrai que là, il a une manière d'écrire qui nous fait beaucoup, qui nous aide beaucoup à travers le deuil, je pense, qui peut vraiment nous aider. Et toutes les personnes qui font justement face à la disparition d'un être cher, en tout cas. Ça, je pense que ça peut parler à toutes ces personnes-là et aussi à quelque chose qui était important pour eux. En tout cas, c'est une autre manière aussi d'aborder ce sujet.
En tant que libraire, Lucie Plessala, par rapport à un roman comme celui-là, donc après, hein, de Raphaël Neds, donc au Tripode, qui parle d'un sujet grave, d'un sujet dramatique, difficile, donc le deuil, vous pensez que la qualité de l'écriture d'un romancier peut faire en sorte qu'on va pouvoir rentrer dans le livre et le lire, en dépit de la difficulté du sujet, uniquement parce que la qualité de cette écriture nous permet à un moment donné d'accepter des choses qu'on n'accepterait pas avec un livre qui serait moins bien écrit.
Ah, la qualité de l'écriture va aider, c'est sûr, parce que après, si l'écriture est moins, enfin, nous parle moins, on ne va pas accéder à ce que l'auteur veut nous dire.
Après, d'accord. Voilà, moi,
je pense que l'écriture est importante, en effet.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que pour vous, l'auteur doit être capable d'arriver à formuler les choses d'une manière peut-être différente de la façon dont on les ressent, ou peut-être, comme on le dit souvent, d'arriver à poser des mots sur des choses qu'on n'arrive pas à formuler, et que c'est ça qui va aider la personne à lire le roman un peu comme un manuel, effectivement, pour traverser une période difficile?
Alors, à vrai dire, moi, j'ai une... Pas une théorie, mais j'ai ma propre idée, c'est que chaque auteur va parler à... Enfin, un lecteur va avoir son auteur. L'écriture est importante, mais en fait, on va avoir une résonance différente selon les personnes, entre un lecteur et un auteur. Donc, il y a le côté, en effet, il faut que ce soit quand même bien écrit, mais la bonne écriture, ça ne va pas être la même pour tous les lecteurs, je trouve.
D'accord.
Il y a une manière d'écrire qui ne va pas parler de la même manière à tel ou tel lecteur.
Et c'est ça qui fait que vous, par exemple, ce genre de roman, parce qu'on voit bien quand on rentre dans une librairie, on voit qu'il y a des romans qui sont présentés, d'autres non. Et ça, c'est jamais un hasard. Je suppose que les tables que vous faites avec les romans que vous présentez parlent aussi des livres que vous avez envie de porter auprès des gens qui rentrent dans votre librairie, Lucie Plessala.
Oui, c'est souvent des livres que j'ai envie de faire découvrir, parfois des maisons d'édition, des auteurs. Mais je sais que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc le travail de libraire, c'est aussi quand même beaucoup de discuter avec le lecteur pour voir quel livre va lui parler, quel livre va pouvoir lui correspondre.
Et alors justement, tant qu'on est là-dessus, avant de voir le livre suivant, Lucie Plessala, parce que là on parle un peu du métier de libraire, hein, ce métier de contact. Quand vous avez une personne qui rentre dans une librairie, vous la laissez, comment dirais-je, aller dans la librairie, ou est-ce que vous allez vers elle pour lui dire est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous recherchez quelque chose en particulier, ou qu'est-ce que vous aimez lire? Comment vous abordez les gens dans ce cas-là pour pouvoir effectivement leur présenter ces livres dont vous nous parlez maintenant à l'antenne de présence, ces livres qui sont pour vous vos coups de cœur de la rentrée littéraire 2025?
Alors moi, dans un premier temps, je les laisse regarder un peu, mais je me tiens à leur disposition. Je leur dis toujours, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis du coup, dès qu'ils vont demander un petit peu un livre, je vais voir auprès d'eux ce qui les intéresse, dans quel esprit, ce qu'ils veulent lire, dans quel esprit ils recherchent. Et à partir de là, en effet, chercher les titres des auteurs qui peuvent leur parler, moi qui m'ont beaucoup plu en règle générale, j'essaye en tout cas, mais parfois je fais aussi selon dont d'autres lecteurs m'ont parlé pour que ça leur corresponde au mieux.
D'accord. Sur une rentrée littéraire, par exemple, comme celle de janvier 2025, comment vous faites pour aller chercher ces coups de cœur? Donc c'est, vous nous le disiez à l'instant, éventuellement un lecteur ou une lectrice qui vous dit « Tiens Lucie, là il y a vraiment un très très bon livre, on vous le recommande ». Ou est-ce que c'est aussi les maisons d'édition, on le sait, hein, qui vous démarchent par le biais de commerciaux, qui viennent vous dire « Il y a tel roman qui est sorti, qui est bien », et que le pitch qui va être tenu par le commercial va vous donner envie de lire ce roman, et une fois que vous l'avez lu, après de le porter?
Le représentant est très important pour ça, parce que c'est vrai qu'il nous fait découvrir avant que les livres sortent, les romans, et ils nous aident à les sélectionner parmi tous les titres qui sortent. Parce qu'il y a beaucoup de titres qui sortent chaque semaine en librairie. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir faire une sélection. Et pour ça, le représentant est très important. Et après, en effet, c'est une découverte au fur et à mesure de ce que l'on peut voir dans la presse, de ce que les lecteurs, dont les lecteurs nous parlent. Parfois aussi des auteurs qui viennent nous voir, qui nous parlent de tel livre ou tel livre. Et puis c'est comme ça qu'on fait aussi des découvertes de maisons d'édition, d'autres auteurs. Et
d'accord. Et quand vous parlez de la presse, c'est qui? Quand vous dites « bon, on va regarder dans la presse », c'est quel journaux vous regardez plus particulièrement? Est-ce que c'est La Dépêche du Midi? Est-ce que c'est Le Monde des livres? Est-ce que c'est d'autres hebdomadaires, d'autres quotidiens qui vont vous aider effectivement à aller sélectionner tel livre? Où est-ce que vous allez... qui est-ce que vous regardez? Enfin, quels sont les journaux que vous allez sélectionner plus que d'autres pour ça?
Alors, j'avoue que personnellement, je ne regarde pas beaucoup. Il y en a un seul que je regarde réellement, c'est le magazine Livre Hebdo, qui est un magazine vraiment pour les professionnels du livre. Je me base beaucoup sur celui-ci.
D'accord, Livre Hebdo qui est vraiment, donc qu'on n'a pas lorsqu'on est un lecteur lambda, mais que tous les libraires ont, donc Livre Hebdo. D'accord.
Oui.
Alors, on rappelle les deux premiers ouvrages que vous nous avez recommandés dans cette sélection littéraire de janvier 2025. Lucie Plessala, donc « Un effondrement parfait » de Jérôme Leroy à la table ronde, donc qui est un recueil de poésie, et c'est très bien parce que, je le redis, on ne parlera jamais assez de poésie sur les ondes de présence. Après, donc, de Raphaël Nedz, donc aux éditions du Tripode, qui est un livre effectivement sur le deuil. Ça, c'était les deux premiers. Est-ce que vous avez d'autres titres que vous souhaitez partager avec nous dans le cadre de vos coups de cœur 2025?
Alors, j'ai deux autres livres que j'ai pu lire, que j'ai beaucoup aimé également. Très différents, là encore. Là, il y en a un qui s'appelle « Le Nuit Blanche » de Bernard-Henri Lévy, aux éditions Grasset. Là, c'est un livre avec des petits textes, des chapitres très courts, où en fait, on déroule pendant tout le long d'une nuit. Le narrateur, qui est l'auteur, nous raconte comment il passe une nuit d'insomnie, les étapes par lesquelles il passe, entre le moment où il va savoir qu'il va pas réussir à s'endormir de la nuit, le moment où il va l'accepter, le moment où il va dire ça y est, je combats le sommeil, et au final le moment où il va finalement dire c'est bon, je cède, je vais aller m'endormir. Donc là on est à la fois sur la manière dont il aborde cette nuit, il va aussi dans ses souvenirs, il va dans les reportages qu'il a pu aller, où est-ce qu'il a pu aller, essayer de comprendre d'où vient son insomnie, qui est chronique, essayer d'aborder le sommeil dans son ensemble, les insomnies, comment c'est abordé par différents philosophes, différents écrivains. C'est une manière de découvrir encore l'insomnie et le sommeil, de les mettre en exergue un peu. Et c'est très intéressant.
Oui, c'est vrai que c'est une approche, je ne pensais pas qu'on aurait pu écrire un livre sur l'insomnie. Est-ce que vous êtes insomniaque, vous, Diego Arrabal?
Pas du tout,
non.
Je dors très bien.
Philippe Subercase, vous êtes un insomniaque?
Ça dépend.
Bon, donc vous voyez, c'est pour vous, Nuit Blanche, de Bernard-Henri Lévy, de Grasset. Il faut qu'on vous l'offre... Pour quand vous aurez des nuits blanches, effectivement, pour savoir un peu comment les autres auteurs, on voit effectivement ce qu'est l'insomnie, pourquoi il y a l'insomnie. Ça doit être un livre assez étonnant, je suppose, le regard qu'il a apporté.
C'est vrai que c'est très étonnant au final, parce que en plus on sent quand même qu'il y a une part, surtout dans le dernier chapitre où il va finalement céder, on sent qu'il y a une part un petit peu, il perd un peu ses repères petit à petit. On voit qu'il va vers le sommeil et il perd ses repères. C'est là encore assez particulier. Il y a vraiment une manière de découvrir les nuits blanches, de découvrir l'insomnie, assez intéressante.
Et c'est nuit blanche avec un S au pluriel ou c'est au singulier?
Non, c'est au singulier. Parce que c'est vraiment pendant une nuit qu'il explique. Il retrace la nuit, comment ça s'est évoqué. Après, l'auteur est familier, il l'explique lui-même, il est familier des nuits blanches.
Bon, voilà. Au moins comme ça, ça aura pu l'occuper. Donc, Nuit Blanche de Bernard-Henri Lévy, donc chez Grasset, qui effectivement évoque une nuit d'insomnie, mais comme vous le disiez, donc en expliquant d'où vient l'insomnie, comment c'est abordé, comment les autres auteurs ont pu en parler, les philosophes, etc. Ouais, ça doit être une approche intéressante, puisque on voit aujourd'hui, on entend aujourd'hui dans les reportages que le sommeil des Français a baissé de 1 heure. On peut se poser la question, effectivement, des causes de cette insomnie. Et si jamais on est insomniaque, ça peut être une bonne lecture, ça, Nuit Blanche, de Bernard-Henri Lévy, donc chez Grasset, pour parler de la nuit d'insomnie. Vous aviez un dernier ouvrage, donc dans les 4 ouvrages que vous aviez sélectionnés pour cette rentrée littéraire 2025. Lucie Plessala, de la librairie Bleu et Or à Saint-Héry-Soulan, on vous écoute.
Ah, mon petit dernier coup de cœur, s'appelle Le ciel de Tokyo, de Émilie Desvaux, aux éditions Rivage. C'est un livre qui nous permet de découvrir le Japon et le Tokyo d'une autre manière, dans des sentiers un peu hors des sentiers battus, un petit peu hors de la vision qu'on en a habituellement. On est en fait dans une gaijin house, donc dans une pension qui n'accueille que des étrangers. Et on suit à travers 3 personnages, 3 locataires de cette maison. Une autre vision de Tokyo, de la vie, comment ils arrivent à s'adapter ou non d'ailleurs, comment ils vivent cette vie et les raisons pour lesquelles ils sont venus au Japon, tout ça. C'est une nouvelle manière de découvrir ce pays. Personnellement, j'aime beaucoup le Japon, donc c'est vrai que j'ai eu tout de suite envie de lire ce livre. On a une autre vision, du coup, de celui qu'on nous dépeint habituellement.
Ça apporte une vision un peu, complémentaire. Je pense notamment au dernier livre d'Amélie Nothomb, où elle revient au Japon, vous savez, donc après des années, avec l'une de ses amies. J'ai plus le titre en tête, je l'ai lu il y a pas très longtemps, mais j'ai oublié le titre. Où en fait,
oui,
elle
mais
représente.
Ça, c'est l'âge.
Hein, ça, c'est ça, l'âge, ouais. C'est l'âge, ouais. Mais je vous rejoins, vous savez que je me dirige tout doucement. On sait que Philippe Subercase est le plus jeune d'entre nous.
C'est vrai ?
Eh oui.
Eh ben, voilà.
Et de loin.
Comme quoi, hein. Vous connaissez ce fameux slogan, hein. Quand je me regarde, je me fais peur. Quand je me compare, je me rassure.
Je me rassure. Voilà. Avec nous, voilà, il y a aucun souci. Soyez rassurés. Donc, le ciel de Tokyo aux éditions Rivage. Donc, c'est trois locataires de Tokyo. Par rapport à cette question, vous trouvez qu'il y a un apport différent par rapport à la façon dont Amélie Nothomb parle du Japon, Lucie Plessala?
Oui, parce que c'est encore un Japon différent de celui d'Amélie Nothomb, parce que Amélie Nothomb ne nous déplaint pas forcément le Japon d'une manière positive non plus, même si elle aime beaucoup ce pays et tout ça, mais elle nous montre aussi quand même la réalité du pays. Et là, on le visualise encore d'une autre manière, parce que c'est pas forcément des personnes qui arrivent réellement à s'habituer, enfin, c'est pas des gens qui réussissent réellement dans ce pays. Donc je trouve qu'en fait, on voit encore une autre manière. Bon, là, on est en plus vraiment dans un roman, par contre. On n'est pas dans une version, dans une biographie, enfin dans un livre qui parle de soi. On est plus sur un roman. Mais c'est trois personnes de trois pays différents qui vont vraiment visualiser le Japon d'une autre manière et montrer un petit peu les bas-fonds, en fait, du Japon. Les banlieues, le côté un peu moins glamour.
Alors, c'est vraiment quatre livres différents, hein, parce que quand je relis Lucie Plessala, ce que vous nous proposez, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a quatre livres complètement différents, quatre univers complètement différents, pour certainement des lecteurs et des lectrices très différentes. Hein, un recueil de poésie, Jérôme Leroy, Un effondrement parfait, pardon, La table ronde. Après, de Raphaël Nedz aux éditions Tripode, donc, qui parle du deuil. Nuit blanche de Bernard-Henri Lévy chez Grasset, donc, qui évoque une nuit d'insomnie où il revient un peu sur ce qu'est l'insomnie, sur comment les philosophes effectivement en ont parlé, sur la perte de repères qu'il a à la fin, donc lorsqu'il va vers le sommeil. Et puis Le ciel de Tokyo aux éditions Rivage, hein, trois locataires donc de Tokyo qui évoquent un Japon différent de celui que l'on peut lire dans les différents romans d'Amélie Nothomb, qui reste un peu, hein, quelque part, hein, je pense pour les Français, la référente de celle qui va pouvoir parler du Japon. Et donc là, ça permet d'avoir, comme vous le dites, un regard différent. Bon, ben, écoutez, Lucie Plessala, quatre bouquins. Lequel vous plairait le plus, Diego Arrabal, à vous, sur ces quatre
Peut-être celui d'Amélie Nothomb, là.
Alors, il n'y a pas Amélie Nothomb qui est...
Ah, pardon.
Celui du ciel de Tokyo, là.
Oui, le ciel de Tokyo.
Le ciel de Tokyo.
Ouais,
voilà. Ouais. Donc, c'est la vieillesse, ça. Hein.
Bêtisier 2025.
Voilà. Ouais.
qui débute bien.
C'est moi, d'habitude, hein, qui débute en fanfare. Hein.
Ah, bah oui, mais...
Vous voyez, donc...
Je voulais pas vous laisser tout seul,
mon
cher
ami. Ah non, mais c'est gentil. Non, mais voilà, j'apprécie votre solidarité. Et vous, Philippe Subercase, sur ces quatre, entre le recueil de poésie...
Le deuil.
Le deuil.
Le deuil, parce que malheureusement, on est tous touchés par ça. Et c'est toujours intéressant de regarder comment c'est traité et comment aussi essayer de faire son deuil. Voilà, chacun le vit différemment, chacun souffre différemment aussi, donc ça peut être intéressant.
Et se reconstruit différemment.
Et se reconstruit, ouais.
Vous nous présentez en fait Lucie Plessala là, dans ces quatre ouvrages que vous nous avez présentés, quatre univers complètement différents. Un recueil de poésie, un livre sur le deuil, un livre effectivement sur l'insomnie et la façon de voir l'insomnie, y compris de façon philosophique, et puis une façon d'aborder le Japon de manière un peu différente de celle que peut nous faire habituellement Amélie Nothomb. Quand vous avez ces lectures, Lucie Plessala, est-ce que vous les avez uniquement en tant que lectrice ou est-ce que vous vous dites il faut que je lise des univers complètement différents, ce qui là est le cas, pour pouvoir m'adapter en fait à tous les lecteurs et toutes les lectrices qui vont rentrer dans votre librairie, qui sont très divers, comme c'est une station de ski, hein, comme tout le monde le sait, donc il y a des gens qui viennent de partout. Est-ce que ça, c'est, vous le lisez en fait à deux niveaux, la lectrice, mais aussi la libraire qui doit s'adapter aux clients qui rentrent?
Alors, j'essaye de lire, c'est vrai que j'essaye de lire un petit peu de tout en règle générale. Après, il faut quand même que le livre m'inspire. Si le livre ne m'inspire pas, je vais pas arriver à me plonger dedans. Donc, mais j'ai la chance d'arriver à m'adapter assez facilement à plein de styles différents. Donc, c'est vrai que ce sont des livres qui m'ont attirée. Je dirais que Nuit Blanche ne me parle pas dans un sens où je ne suis pas du tout insomniaque, mais il m'intriguait, donc j'avais envie de lire un livre de Bernard-Henri Lévy, c'est le premier que je lis de lui. Donc je me suis plongée dedans, avec plaisir d'ailleurs, au final. C'était une bonne découverte. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut que les thèmes me parlent un petit peu, les résumés me parlent. Et là, j'ai eu la chance d'avoir quatre livres assez différents, mais qui m'ont...
Qui sont très différents. Donc, on rappelle qu'on est avec Lucie Plessala, libraire donc passionnée et passionnante de la librairie Bleu et Or, basée à Saint-Lary-Soulan, pardon, qui est ouverte tous les jours de l'année, y compris les jours fériés, qui nous propose quatre titres. On vous écoute, Lucie Plessala, pour nous rappeler ces quatre titres que vous nous recommandez.
Alors, donc, il y a Un effondrement par Jérôme Leroy aux éditions La Table Ronde. Petit recueil de poésie autour de la nostalgie. Il y a également Après de Raphaël Meltz aux éditions Le Tripode autour du deuil. Il y a Nuit Blanche de Bernard-Henri Lévy aux éditions Grasset sur l'insomnie. Et donc Le ciel de Tokyo de Émilie Desvaux aux éditions Rivage sur la vie au Japon, les bas-fonds du Japon.
Eh bien voilà, pour les quatre titres de cette rentrée littéraire de janvier 2025, qu'on vous recommande que vous soyez habitant ou habitante de la Vallée d'Or ou que vous veniez au ski au mois vacances, lors des vacances de février, donc dans la station de ski de Saint-Lary-Soulan. Donc vous allez à la librairie Bleu et Or, oui, qui est dans le centre, qui est ouverte tous les jours.
Tous les jours, et même le jour de Noël.
Eh oui.
Eh ben oui, parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué.
Eh oui.
Pour les retardataires.
Pour les retardataires.
Ou alors les très, très, très retardataires.
Les très, très, très retardataires.
Voilà, qui arrivent devant les gens où il fallait, ils disent tiens, j'ai oublié un cadeau. Et puis un livre est aussi un joli cadeau qu'on peut
offrir. C'est un magnifique cadeau.
Puis après, Lucie Plessala pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. Hein. Vous avez des livres spécifiques qui ne sont vendus qu'au moment de Noël, Lucie Plessala. Tous les livres d'art.
Et les livres d'art, c'est ce qui ressort le plus au moment de Noël. C'est des beaux livres qui parlent beaucoup, qui font envie pour offrir.
Merci beaucoup.
Toujours simple. Merci beaucoup, Lucie Plessala.
Merci, Lucie. À bientôt.
À Saint-Lary-Soulan. Merci. Au revoir.